Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Evelyne Grossman, qui publie Antonin Artaud, un insurgé du corps, dans la collection Découverte chez Gallimard. Je suis un homme qui a beaucoup souffert de l'esprit, et à ce titre, j'ai le droit de parler. Je sais comment ça se trafique là-dedans. J'ai laissé longtemps la musique, Evelyne Grossman, pas seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce que je voulais me replonger dans votre bibliographie et des livres. Vous en avez écrit beaucoup, beaucoup.
Sur Artaud, entre autres, oui.
Entre autres, oui. Surtout sur Artaud, mais pas seulement.
Pas seulement, non, c'est vrai. Sur la littérature du XXe siècle en particulier, oui. La littérature et la philosophie du XXe siècle, oui.
Surtout la littérature française, avec une petite incursion du côté de l'Irlande, avec Joyce.
Joyce et Beckett, qui est quand même pas tout à fait un écrivain français.
Et la dernière fois que je vous ai reçu dans un studio, c'était pour parler de Marguerite Duras.
C'est vrai, je me souviens, oui.
Il y a un lien entre tous ces noms?
Il y a un lien peut-être inaperçu, mais qui me paraît tout de même essentiel, oui, entre Beckett, Duras, Artaud et d'autres. Outre le fait que ce sont des écrivains du XXe siècle, il s'agit, je crois, d'écrivains qui ont travaillé sur la perte de soi, la perte de l'identité, sur une forme d'écriture à l'infini. Et je crois que Marguerite Duras a ça en commun avec Antonin Artaud, et puis aussi l'exploration de territoires réputés fous, de l'esprit, de la psyché.
Artaud, c'est pas un sujet facile.
C'est un sujet sans doute difficile, mais que je ne trouve pour ma part pas si inabordable que ça, pas si illisible que cela. Il y a des écritures contemporaines que je trouve infiniment plus inabordables que celles d'Artaud, sans citer de nom. On arrive à avoir une...
Même si je vous les demande.
Ah non, non. non, je ne vise personne en particulier. Je trouve qu'on parvient à avoir une certaine familiarité avec des œuvres comme celle d'Artaud quand on fait l'effort d'explorer des territoires de sa propre psyché, qui sont peut-être moins quotidiens que d'autres, mais qui... qui sont en tout cas bouleversants.
Artaud, on ne peut pas vous soupçonner de ne pas l'avoir lu. Quelquefois, il y a des universitaires ou des critiques qui parlent de livres qu'ils n'ont pas lus. Mais ça ne peut pas être votre cas, puisque vous l'avez édité, Antonin Artaud, ce gros volume de la collection Quarto, de ses œuvres. Est-ce que, malgré tout, vous avez encore des découvertes à faire sur ce continent-là?
C'est la question que je me pose souvent. Est-ce qu'on peut encore écrire sur Antonin Artaud? Est-ce que je peux encore trouver quelque chose que je n'avais pas encore aperçu dans l'œuvre d'Artaud? À chaque fois, je me dis non, c'est fini, c'est la dernière fois. Et à chaque fois, curieusement, des découvertes surviennent, oui. J'ai participé récemment à un colloque à la BNF à l'occasion de l'exposition Antonin Artaud qui a lieu en ce moment. Et le titre, c'était Artaud et la psychanalyse. A priori, je pensais que j'avais à peu près, non pas tout dit sur la question, mais pour moi, suffisamment réfléchi sur la question pour ne rien avoir d'autre à dire. Et j'ai trouvé là, en tout cas pour moi, des choses nouvelles, des idées que je n'avais pas encore explorées. Je crois qu'il y a quelque chose d'inépuisable dans l'écriture d'Antonin Artaud, en tout cas pour moi.
Il y a de l'inconnu encore.
Il y a de l'inconnu, il n'y a même que de l'inconnu, parce que c'est cela qu'il essaie d'écrire, oui.
Vous faisiez allusion à cette exposition qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France, qu'on peut voir jusqu'au 4 février d'ailleurs, avec un très beau catalogue, si on ne peut pas se déranger jusque-là. Un catalogue auquel vous avez collaboré, Evelyne Grossman, avec un texte que vous avez intitulé « L'art crève les yeux ». Et vous avez aussi préfacé et établi l'édition d'un cahier Ivry, janvier 1948. On en dira quelques mots tout à l'heure, parce qu'il y a aussi maintenant... cette entreprise-là, la publication de cahiers qui reste justement des découvertes à faire, et ce volume de la collection Découvertes chez Gallimard, Antonin Artaud, un insurgé du corps, où là, à destination d'un public peut-être moins averti, vous retracez la trajectoire du poète depuis ses premiers poèmes surréalistes jusqu'au texte fulgurant de la fin. Mais ça ne vous inquiète pas, toutes ces manifestations institutionnelles autour de cet écrivain qui l'est si peu?
On aurait pu craindre cela, c'est vrai, une certaine récupération, comme l'on dit, institutionnelle de l'œuvre d'Antonin Artaud, mais je ne crois pas que ce soit le cas. D'abord parce que l'exposition qui est actuellement montrée à la Bibliothèque nationale de France est tout sauf une exposition académique. C'est Guillaume Faux qui est le conservateur actuel du fonds Antonin Artaud à la Bibliothèque nationale de France qui a organisé cette exposition. Et je dois dire que c'est une exposition magnifique parce qu'elle fait découvrir à un très grand public toute la diversité de l'œuvre d'Artaud. Et je sais, pour en avoir beaucoup parlé avec des étudiants, de jeunes lecteurs qui découvrent pour la première fois, par exemple, les manuscrits d'Artaud qui sont exposés, les dessins que l'on voit pas toujours tout de même, ou alors il faut aller à Marseille, au musée Cantini, quelques-uns sont parfois montrés à Beaubourg, pas tous, et ils découvrent ça et ils reçoivent vraiment un choc extraordinaire en voyant cela. En plus, on peut découvrir les films dans lesquels Artaud a tourné, films qu'on voit très rarement. Donc je crois que c'est tout sauf une récupération institutionnelle, c'est au contraire de montrer que l'œuvre est encore à découvrir, encore à lire, et justement par de jeunes lecteurs qui connaissent très peu encore Antonin Artaud, qui ont ces images d'Épinal, d'écrivain fou, qui a passé pas mal d'années dans les hôpitaux psychiatriques, écrivain maudit, enfin images d'Épinal qui doivent être dépassées pour justement découvrir la force de cette œuvre. Je crois qu'on ne parlera jamais trop d'Antonin Artaud. Il y a actuellement un certain nombre de livres, c'est vrai, qui sont publiés et qui permettent toutes sortes d'entrées dans l'œuvre. Vous avez raison de dire, bon, il y a ce petit découverte qui est dirigé vers un public large qui ne connaît pas encore très bien Artaud. pour essayer de montrer tout ce que représente cette œuvre, comment on peut l'aborder quand on ne sait pas trop par quoi commencer. Et puis, il y a des livres plus érudits qui s'adressent à un public peut-être plus spécifique, qui a déjà lu les grands textes d'Artaud, qui a entendu parler du théâtre et son double, par exemple, ou de l'ombilique des limbes, ou des textes relativement connus d'Artaud, mais qui, par exemple, ne connaît pas ces fameux petits cahiers d'écoliers. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait paraître chez Gallimard un fac-similé d'un des petits cahiers d'écoliers d'Ivry. Il y a 406 petits cahiers qu'Artaud a noirci à partir de 1945 jusqu'à la fin de sa vie, en 1948, sur lesquels il écrivait tous les jours de façon absolument frénétique, qu'il couvrait non seulement d'écriture mais de dessin. Et on a voulu montrer un de ces cahiers en fac-similé pour que le public puisse voir ce qu'étaient vraiment ces cahiers, puisque certains ont été publiés dans les œuvres complètes, mais sans les dessins. Et donc, on ne pouvait pas réaliser, quand on voyait uniquement le texte, toute cette théâtralité, tout ce caractère foisonnant, débordant de ces cahiers sur un si petit format, faire vivre à ce point l'écriture, les dessins, les pages transpercées, la chorégraphie que ça représente. Donc voilà, il y a toutes sortes d'aspects d'Artaud qui sont montrés.
Certains futurs lecteurs d'Artaud, Evelyne Grossman, ne savent pas par quoi commencer, disiez-vous. Vous avez su par quoi commencer ce volume de la collection Découverte qui lui est consacré. C'est par cette fameuse conférence du Vieux Colombier à Paris, le 13 janvier 1947. Histoire vécue d'Artaud Momo, tête à tête par Antonin Artaud. Une conférence qui était très attendue et qui a surpris les spectateurs venus au Vieux Colombier.
Oui, c'est une conférence qui a tourné court, puisque selon tous les témoignages que l'on ait de cette conférence, et ils sont nombreux, Artaud n'a pas réussi à lire les notes qu'il avait préparées, les trois cahiers qu'il avait apportés. Il a lu quelques poèmes et puis il s'est perdu dans ses feuilles et donc il a arrêté de lire. Mais tous les témoignages concordent pour dire que cette confrontation d'Artaud qui sortait de l'asile depuis quelques mois, de l'asile de Rodez, donc qui sortait de 9 années d'internement, a été quelque chose de bouleversant pour les spectateurs de l'époque. Ils étaient sans doute pour certains venus voir une sorte d'animal de foire, hein, le fou sorti de l'asile. Et ils ont été, je crois, bouleversés, contaminés par la force de ce qui leur était présenté. Artaud a voulu, d'une part, mettre en accusation la société qui l'avait enfermé. Il faut se représenter, c'est aussi l'immédiat après-guerre, hein, c'est la libération, tout ce que ça signifiait. Aussi le poète libéré, celui que la société avait enfermé, comme il l'a beaucoup répété. Et en même temps, au-delà de cela, c'était une parole autre qui se faisait entendre, la parole de quelqu'un qui racontait qu'il était envoûté, que des démons l'assaillaient, mais qui en même temps tenait un discours d'une vérité poétique, je crois, qui ne pouvait que frapper les spectateurs. Il y avait sans doute quelque chose là dans cette représentation, puisque c'en était une, qui était proche de ce fameux théâtre de la cruauté qu'il avait cherché à faire vivre, à incarner sur la scène depuis les années 30, depuis depuis en gros 1931, lorsque dans un de ses premiers textes, Le théâtre et la peste, qui était déjà une conférence à la Sorbonne cette fois, il avait, au dire des spectateurs, littéralement mimé un homme pris de peste et qui produisait un discours fou d'une certaine façon, mais en même temps un discours d'une poésie extraordinaire, qui voulait montrer la contamination que le discours peut produire sur le spectateur, qui alors n'est plus seulement un spectateur, mais qui est littéralement atteint corporellement par ce qu'on lui projette. Je crois que c'est ça qui s'est passé dans la conférence au Vieux Colombier. Il n'a pas réussi à tenir tout à fait le discours qu'il avait prévu de tenir, mais en même temps, il a commotionné, frappé, bouleversé le spectateur.
Je ne suis pas du tout Antonin Artaud de Marseille, mais Antonin Artaud de l'éternité, disait-il dans une phrase qui refuse en même temps la naissance et la mort. C'est vrai qu'il est, né à Marseille.
Il est né à Marseille, incontestablement. Il est né à Marseille et pourtant, il n'a de cesse d'affirmer qu'il n'est pas du tout né à Marseille. Pas d'un père et d'une mère, en tout cas. Pas de cette procréation humaine qu'il déteste, qu'il honnit, puisque le discours même d'Artaud, un de ses thèmes, si l'on peut dire, fondamentaux, c'est justement d'expliquer qu'on a tort de se croire né d'un père et d'une mère, qu'on a tort de croire à la mort, comme il dit. Il ne faut pas se laisser aller au tombeau. Il faut refaire le corps humain, il faut refaire l'anatomie humaine. C'est ça le but du théâtre de la cruauté, de refaire un autre corps, hein, ce qu'il appelle entre autres le corps sans organes, c'est-à-dire sortir de cette anatomie qui nous voue au tombeau, sortir de cette linéarité chronologique qui fait que l'on tombe. C'est ça aussi un insurgé du corps, ça veut dire qu'on ne tombe pas, qu'on ne descend pas d'une lignée généalogique, mais qu'on remonte, qu'on s'insurge, qu'on se soulève. Et que l'écriture, c'est ce soulèvement qui produit un acte qui est un corps.
On n'est pas assigné à résidence d'aucune façon. Et c'est intéressant de le noter parce que sa famille, c'était des capitaines au long cours, de père en fils. Donc, il était prédestiné, d'une certaine manière, à ne s'arrêter nulle part. Sa mère, originaire de Smyrne, donc une enfance polyglotte, où le grec, le turc, l'italien, le français se côtoyaient.
Et toutes ces langues, on les retrouvera dans son écriture, et en particulier à partir des années 45, lorsqu'il réinvente une autre langue qu'il appelle glossolalique, qui est donc une langue qui reprend toutes ces langues de son enfance et en même temps d'autres langues, des langues inventées, des langues qui n'ont plus rien à voir avec le français, puisqu'il faut aller au bout du français, comme il le dit. Et tout ceci, naturellement, a à voir avec cette enfance qui est marquée par toute une infinité de langues qu'on parle dans sa famille, c'est vrai. Même si il ne faut pas, je crois, rechercher des mots réels, dans les glossolalies, dans ces syllabes inventées à partir de Rodez, il explique très clairement qu'il s'agit d'abord de corps. Ce sont des corps animés, dit-il, ces syllabes. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toute cette utopie d'inventer une autre langue, une autre écriture, qui serait comprise immédiatement par tout le monde.
Alors comment ce désir d'écrire des poèmes, d'abord, et puis le théâtre, entre-t-il dans sa vie ?
C'est au début des années 20, quand il arrive à Paris, qu'il quitte Marseille, donc, qu'il commence à écrire d'abord des poèmes. Et puis il y a ce fameux épisode en 1923, quand il envoie quelques-uns de ses poèmes à Jacques Rivière, le directeur de la Nouvelle Revue Française, monument académique, là, pour le coup, institution reconnue. Et Artaud demande à Jacques Rivière si ses poèmes sont littérairement recevables, comme il dit. Et Jacques Rivière lui répond que non, que ses poèmes ne sont pas suffisamment aboutis. Mais l'échange de lettres avec Jacques Rivière est tellement extraordinaire que Jacques Rivière propose à Artaud de publier cette correspondance. Et c'est l'entrée en scène d'Artaud dans le monde littéraire, cette correspondance avec Jacques Rivière, où Artaud lui écrit précisément qu'il ne parvient pas à écrire. Et dans des lettres tout à fait magnifiques, Artaud raconte à Rivière à quel point il souffre, comme il dit, d'une effroyable maladie de l'esprit. « Ma pensée m'abandonne à tous les degrés », écrit Artaud. « Et cependant, je sais que j'ai quelque chose à écrire ». Donc voilà, cette première entrée en scène d'Artaud, c'est pour dire à quel point l'écriture est difficile, à quel point elle manque, à quel point il cherche un corps. Mmh. Il cherche à se donner un autre corps. C'est ce qu'il demande à Jacques Rivière, d'ailleurs. « Donnez-moi un corps pour exister ».
Mais très vite, plus qu'aux gens de la NRF, c'est aux surréalistes qu'il va porter sa sympathie.
Oui, parce qu'André Breton, lisant la correspondance à Jacques Rivière, prend contact avec Antonin Artaud et très vite, Artaud est embarqué, comme il dit, dans le bateau surréaliste. Il va avoir un rôle, d'ailleurs, capital dans le mouvement surréaliste, puisqu'il va diriger l'un des numéros, en particulier de la revue surréaliste, en 1925, fin de l'ère chrétienne, numéro dont il rédigera un certain nombre d'articles. Artaud ne fera qu'un bref séjour parmi les surréalistes. Il sera vite trouvé par André Breton, Aragon et d'autres, trop violent, trop virulent, trop débordant, et avec une définition de la révolution qui ne correspond pas tout à fait à ce que les surréalistes commencent à entendre, c'est-à-dire pas la révolution communiste. Mmh. Et au moment où Breton et quelques-uns de ses amis s'inscrivent au Parti communiste, Artaud rompt, il est exclu d'ailleurs du Parti communiste. Et il y a une rupture assez violente où Artaud leur dit très brutalement que la révolution qu'ils font, ça ne l'intéresse pas. Que pour lui, la révolution, elle est d'essence spirituelle pure.
1925, l'année de la publication de ce numéro de la Révolution surréaliste, c'est aussi celle de ses premiers livres, Le Pesner et L'Ombilique des Limbes.
Ce sont ses premiers recueils poétiques qui sont certainement parmi les plus beaux textes d'Antonin Artaud. On demandait tout à l'heure par quoi commencer. Je crois que quand on commence à lire Antonin Artaud, on peut commencer par L'Ombilique des Limbes, L'Art et la Mort, Le Pesner, qui sont des textes poétiques magnifiques, certains d'inspiration surréaliste, mais bien au-delà, parce que justement, ils disent toute la douleur de vivre et d'écrire d'Antonin Artaud à cette époque. Toute la difficulté de trouver une langue, toute la perdition de son esprit, hein, ce qu'il appelle la perdition, l'impouvoir de la pensée. Et ce sont des poèmes, je crois, qui sont à la fois très immédiatement faciles à lire et bouleversants. Bien au-delà des petits jeux surréalistes d'écriture automatique. C'est pour ça aussi qu'il y avait, je crois, une sorte de malentendu entre certains surréalistes et Antonin Artaud. Qui très vite ne s'est pas contenté de l'écriture automatique. Ce n'est pas de l'écriture automatique ce qu'il fait.
Il ne cherchait pas à faire des œuvres.
Il ne cherchait pas à faire des œuvres, surtout pas à faire des œuvres. Ce que vous appelez des œuvres, c'était uniquement les raclures de ma pensée, dit-il. La déperdition, le ratage de la pensée, c'est là-dessus qu'il travaille. C'est en cela qu'il est tout à fait moderne. Le ratage, c'est, je crois, au cœur même de l'écriture moderne. On parlait tout à l'heure de Beckett, de Michaud, de Duras. Tous, je crois, travaillent sur le ratage de l'écriture. Comment mal dire, comme disait Beckett. C'est très difficile de mal dire. Bien écrire, c'est à la portée de n'importe qui.
Mmh. Artaud moderne, alors, 1925, Evelyne Grossman, c'est aussi l'année d'une tentation, celle du cinéma.
Il a été acteur de cinéma, c'est vrai, dès 1924-1925. Il va tourner en tout dans une dizaine de films, un peu plus, jusqu'à 1935, comme acteur. Il n'aura jamais de grand rôle au cinéma, finalement. Il a espéré un moment pouvoir être une vedette de cinéma, ça lui plaisait beaucoup, et il avait un physique extraordinaire, un physique de jeune premier, d'ailleurs. Il a tourné dans quelques grands films, hein. Il a tourné, comme chacun sait, dans Le Napoléon d'Abel Gance, il a tourné
dans Jeanne d'Arc,
voilà, où joue le moine qui tend là, sa croix à Jeanne d'Arc, dans le Jeanne d'Arc de Dreyer. Il a tourné dans Pabst. Dans le dernier film qu'il a tourné, c'est un film de Maurice Tourneur, donc avec de grands cinéastes, mais jamais de très grands rôles. D'ailleurs, les opinions étaient parfois un peu mitigées sur Artaud acteur. Il avait quand même une personnalité assez particulière qui fait qu'il ne devait pas être facile de lui trouver des emplois.
Il avait un problème quand même avec le cinéma, dans la mesure où le cinéma, c'est la machine.
Voilà, oui. Et il a très mal vécu le passage au cinéma parlant. Il a écrit des articles très dévastateurs sur le cinéma qui avait perdu son âme lorsqu'il est devenu parlant. Ce qui l'intéressait, c'était la force des images au cinéma. Comme d'ailleurs les surréalistes à l'époque. Hein. Il parle de façon très, très étonnante d'ailleurs du cinéma comme la peau humaine des choses, le derme de la réalité. C'est ça qui l'intéresse dans l'écran de cinéma. Et il lui semble que quand la voix est localisée dans le cinéma parlant, le cinéma perd toute sa magie. Et à partir du parlant, il a très peu continué à travailler. Et lui-même, d'ailleurs, a cessé de vouloir faire du cinéma, parce que, donc, je disais, il a été acteur, mais aussi, il a rédigé quelques scénarios pour le cinéma, dont un a été tourné, qui est donc La Coquille et le Clergyman, tourné pas par lui. Et c'est une expérience qui a été extrêmement négative de son point de vue, puisqu'il a considéré que Germaine Dulac, qui était pourtant une cinéaste reconnue à l'époque, l'avait trahi, puisque c'était pas cela qu'il aurait voulu voir sur l'écran. Disons que son scénario matérialisé sur l'écran lui a paru ne pas être ce qu'il aurait voulu.
Mmh. Enfin bon, il était très conscient des dangers que faisait courir à l'art l'arrivée omniprésente de la technique. On se demande ce qu'il dirait aujourd'hui avec la technologie électronique. Pour lui, c'était le gouffre, le néant, et il en fera l'expérience à la radio aussi. C'est-à-dire, comme le cinéma, la radio n'a pas grâce à ses yeux. Il en a fait une expérience très malheureuse avec cette fameuse émission « Pour en finir avec le jugement de Dieu ».
Oui, à la fin de sa vie, en 1948, c'est vrai, il dit là où il y a, c'est la machine, c'est toujours le gouffre et le néant. Il a là aussi considéré qu'il avait été trahi dans cette émission de radio. Pour en finir avec le jugement de Dieu, c'était une émission dont il avait écrit les textes. Il s'agissait d'une sorte de série de poèmes radiophoniques, mis en son, avec toute une série de bruitages, de musique, de cris. Enfin, c'était toute une sorte d'opéra vocal. Qui a fait scandale à l'époque, puisque naturellement...
L'émission a été interdite.
L'émission a été interdite. Le texte a été publié par les éditions K, immédiatement. Et il aura fallu attendre des années, comme on sait, pour que l'émission soit diffusée par France Culture en 1974, officiellement.
Mmh. Et pour vous, la question essentielle, Evelyne Grossman, c'est, du point de vue d'Artaud, comment crever l'œil du spectateur pour qu'enfin il voit et que voir redevienne un acte de tout le corps. Hein, je rappelais tout à l'heure que le texte que vous avez donné au catalogue de l'exposition Artaud de la BNF, vous l'avez intitulé « L'art crève les yeux ».
Il y a une réflexion extrêmement intéressante, je trouve, d'Artaud sur l'art. Ce n'est pas la partie de son œuvre qui soit la mieux connue, et justement, ça fait partie de ces redécouvertes, il me semble, qu'il faut avoir. Non seulement Artaud a dessiné beaucoup, mais il a aussi beaucoup réfléchi depuis le début de son existence d'artiste sur l'art, sur un certain nombre de peintres et sur ses propres dessins qu'il a commencé à faire à partir de 1945 à l'asile de Rodez. Et sa réflexion sur le spectateur du tableau, elle est à mettre en parallèle avec sa réflexion sur le spectateur au théâtre. C'est la même idée de refuser le spectateur à distance, de même que le lecteur à distance. Il y a la même théorie de la contamination violente, c'est-à-dire que, comme au théâtre, Artaud disait qu'il ne voulait pas que le spectateur sorte intact du spectacle. Et de même, il ne faut pas que le spectateur de ses dessins les regarde tranquillement à distance comme des œuvres d'art. Mais il faut, en effet, que l'art lui crève les yeux. Artaud dit dans un de ses commentaires sur ses propres dessins que nous avons une taie sur l'œil, que nous ne savons pas regarder. Et qu'il faut en effet que quand on regarde, on perçoive, on ressente un déchirement de la rétine. Alors seulement on peut commencer à voir. Mais il faut se sentir pour cela atteint physiquement. Crever les yeux, oui, dans tous les sens du terme. «
Plusieurs reprises, Evelyne Grossman, vous avez parlé de théâtre, du théâtre d'Antonin Artaud. Qu'est-ce qu'il appelle théâtre, au fond ? Est-ce que c'est ce qu'on entend par ce mot, généralement, quand nous l'employons, vous et moi ?
C'est ça, sans doute, mais aussi, je crois, beaucoup plus que cela. D'où toute une série de malentendus, d'ailleurs, quand on croit qu'Artaud est un homme de théâtre. Il est sans doute cela, d'une part, mais aussi beaucoup plus que cela. D'ailleurs, il n'a finalement écrit qu'une pièce de théâtre, Les Cenci, qu'il a mise en scène en 1935, qui n'a pas été un succès, pour des tas de raisons, sans doute d'abord pour des raisons financières, mais aussi parce que ce qu'Artaud entend sous ce terme de théâtre n'est peut-être pas de l'ordre du représentable, de l'ordre de la mise en scène, au sens où nous l'entendons. Le théâtre, pour Artaud, c'est beaucoup plus que le théâtre, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est quelque chose qui déborde la scène, c'est un débordement des limites, c'est l'absence de limites justement entre la scène et la salle. Et c'est un théâtre qui peut-être finalement s'est incarné pour lui à la fin de sa vie, comme on le dit parfois, mais je crois qu'on a raison de le dire, dans son écriture et dans les petits cahiers d'écolier qu'il a noirci, rempli à la fin de sa vie, à partir de 1945. Je crois qu'il n'avait plus besoin d'une scène de théâtre, il n'avait plus besoin d'acteurs, il n'avait plus besoin de toute cette machinerie, justement, par laquelle il se sentait à chaque fois trahi. Le théâtre, c'était d'abord pour lui quelque chose qui avait lieu dans l'air, avant la représentation, après la représentation. C'est une affaire de souffle. C'est une affaire de respiration, une affaire d'énergie, de chorégraphie, de danse. Et tout cela, c'est ce qu'il met en acte quand il écrit, quand il dessine.
C'est là où le souffle reprend.
C'est là que le souffle reprend, certainement. Et on a toute une série de descriptions d'Artaud dessinant ou écrivant à la fin de sa vie, à partir donc des années 45. En particulier, le poète Jacques Prevel, qui a été très proche d'Artaud dans les dernières années de sa vie, nous le décrit dans son journal. Il nous raconte que Artaud danse en même temps qu'il écrit ou qu'il dessine. D'abord, il écrit debout, toujours. Et il y a toute une chorégraphie de gestes. Il y a des gestes d'acupuncture, il y a des souffles, des raclements de gorge, il y a des cris, des gesticulations. Et tout ceci fait partie de l'écriture. Artaud dit que ce qu'on lit, ce n'est souvent que l'énergie retombée. C'est ce qui est sur la page et qui risque de mourir. Si justement le lecteur ne reprend pas pour lui-même, cette chorégraphie ne le vit pas en même temps.
Le théâtre n'est donc pas seulement un espace de jeu ou un lieu pour la parole.
Non, justement, c'est cela. Toute sa vie, Artaud a été à la recherche de quelque chose qui déborde l'espace, qui déborde le lieu. Comment inscrire l'infini dans quelque chose qui est très restreint ? Et c'est le paradoxe qu'il a essayé de mettre en acte toute sa vie sur une petite feuille. Comment inscrire l'infini sur une feuille de papier ou sur ce qu'on appelle les grands dessins de Rodez. Ils sont petits, finalement. On les voit là dans l'exposition, hein, en format raisin. Ce ne sont pas d'énormes dessins. Ce qu'Artaud d'ailleurs remarquait aussi à propos de Van Gogh. Van Gogh, disait-il, a toujours peint de petits formats. Et le tour de force, c'est de faire surgir l'énergie dans un tout petit format, de déborder complètement les cadres.
Donc le théâtre déborde les cadres aussi, excède le théâtre. Est-ce que la cruauté excède aussi la cruauté ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ?
C'est un terme énigmatique, sans doute, qui déborde toute forme de définition, mais je crois qu'on peut dire ça de tous les termes clés d'Artaud. La cruauté, il l'a dit à plusieurs reprises, en particulier dans ses textes théoriques du théâtre et son double, la cruauté, bien sûr, elle est à entendre au sens sanguinaire, indéniablement. Mais, dit-il, ce n'est pas seulement ça. Il ne s'agit pas seulement de dépecer nos organismes. La cruauté, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie vitale pour lui. Et il dit à un moment, j'ai dit cruauté comme j'aurais dit vie. débordement de vie, énergie infinie. La cruauté, c'est d'abord ce lien paradoxal, visiblement, qui doit relier et déchirer en même temps l'acteur, le spectateur, l'acteur, le lecteur. C'est un lien paradoxal, violent, sans aucun doute, mais en même temps d'une grande douceur. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer Artaud comme on l'entend parfois en voyant chez lui quelque chose qui serait de l'hystérie. C'est l'inverse même de l'hystérie, Artaud. Il y a aussi, je crois, une grande douceur, un sens constant des nuances, une façon d'ouvrir les mots qui est d'une grande délicatesse. Et l'énergie passe aussi dans des manipulations microscopiques de la langue, presque inaperçu. Ce mot magnifique que Jacques Derrida avait remarqué de subjectile, ce n'est pas un mot violent, mais c'est un mot extraordinaire. Dans un mot aussi simple, inaperçu, passe une infinité d'autres mots et une force extraordinaire de l'écriture. Le subjectile, comme Derrida l'avait magnifiquement montré, c'est le support sur lequel le peintre dessine. En même temps, c'est le corps, c'est la feuille, c'est l'espace de la projection. Donc c'est tout ce qui est l'espace et bien plus que lui ou bien moins que lui. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'indéfinissable, justement. Tout ceci pour dire que la cruauté, c'est violent, mais aussi c'est l'inverse de la violence. C'est ça qu'il est difficile de saisir, souvent, chez Artaud. Une très grande douceur, une très grande subtilité.
Vous dites de la cruauté que c'est une nouvelle définition de la culture, une culture en acte.
Une culture en acte, une culture qui soit à l'inverse de ce qu'était pour Artaud la culture occidentale, celle du théâtre occidental en particulier, qui pour lui était un théâtre mort, un théâtre de cadavres, dont toutes les énergies étaient retombées, un théâtre psychologique, ce qu'il détestait, surtout pas de psychologie. Il fallait au contraire essayer constamment de maintenir la force vivante, qu'elle ne retombe jamais. Ce qui fait mieux comprendre à quel point le lecteur ou le spectateur a un rôle extraordinaire à jouer pour que ces énergies soient constamment vivantes et qu'on ne soit pas devant des livres morts. Comment faire pour écrire quelque chose qui soit un corps vivant?
Donc qu'on se tourne, théâtre, écriture, dessin, c'est toujours de débordement qu'il s'agit. Débordement de cette force vivante.
C'est toujours de cela qu'il s'agit, en effet. Il s'agit de cela. Oui, débordement, et encore une fois, débordement sans qu'il s'agisse forcément de violence. Il y a cela, mais aussi un débordement intérieur, quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Artaud insiste beaucoup sur la force de l'esprit, sur le souffle, quelque chose qui est parfois imperceptible, qui déstabilise imperceptiblement.
Evelyne Grossman, Antonin Artaud, un insurgé du corps dans la collection Découverte chez Gallimard. Et je rappelle le cahier Ivry, janvier 1948 d'Antonin Artaud, une édition qu'Evelyne Grossman a établie et préfacée également chez Gallimard. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.